La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
C'est l'information incontournable de la semaine. Ce lundi 21 avril, le pape est mort. Je ne sais pas s'il a voulu tuer le buzz de Jésus-Christ en mourant le lundi de Pâques ou si les équipes marketing du film Conclave sont allées un peu trop loin. En tout cas, ce qui est certain, c'est que François a bien choisi son heure pour rejoindre le paradis des papes. Personnellement, ce qui me frappe depuis lundi, c'est que la presse française ainsi que le monde politique, même de gauche, ne tarit pas d'éloges à l'égard du pape François, Jorge Mario Bergoglio de son vrai nom. Il est présenté comme un pape humaniste, réformateur et pacifiste, voire progressiste, et on met en avant sa posture de rupture avec des vieux rites catholiques, une façon de faire plus humble qui a détonné au sein de l'Église. Alors effectivement, le pape François a eu des paroles courageuses et importantes, à la fois en qualité de chef de l'Église, mais également en tant que chef d'État. Il a pris à plusieurs reprises position en faveur de l'accueil des personnes réfugiées en Europe et il a dénoncé la politique frontalière des pays européens et le silence face aux milliers de personnes mortes en ayant essayé de traverser la Méditerranée. Son premier déplacement officiel en 2013 était d'ailleurs sur l'île de Lampedusa. Plus récemment, il a aussi dénoncé la situation à Gaza en parlant d'une situation dramatique et ignoble et il a fait évoluer la posture de l'Église quant à l'environnement et fustigé régulièrement les excès du capitalisme. Pour autant, derrière cette figure de quasi-sainteté, il faut bien rappeler que l'Église est une institution dogmatique et réactionnaire et que le pape François incarnait aussi largement cette position, en particulier sur les questions de genre et de sexualité. Dans le bingo des horreurs prononcées par sa sainteté, on retrouve la comparaison entre l'avortement et le recours à un tueur à gages, plusieurs propos homophobes, y compris en latin, la dénonciation d'une soi-disant idéologie du genre et le rappel que l'homosexualité constitue un péché. Mais ce n'est pas tout, car si François a rompu avec certaines traditions de l'Église, il y en a bien une qu'il a honorée, c'est l'omerta sur les violences sexuelles. Il a par exemple prétendu ne pas être au courant d'un des plus gros scandales ayant éclaté en Irlande à propos des pensionnats catholiques où des milliers de jeunes femmes ont subi des violences. Il avait aussi appelé la presse à respecter la présomption d'innocence à propos du cardinal Barbarin et a défendu un évêque chilien qui était très proche d'un des plus gros pédocriminels du pays. En somme, le pape François était une figure pour le moins contrastée, et personnellement, l'image que je choisis de garder de son pontificat sera à jamais celle de lui portant une doudoune Balenciaga blanche. Un grand merci à l'IA Générative pour ce beau moment. Le conclave amenant à sa succession s'ouvrira d'ici quelques semaines, alors espérons que la prochaine fumée blanche annonce un pape réellement progressiste. Personnellement, je me fais peu d'illusions.
Ce jour-là, ils sont des milliers à scander des slogans contre l'AKP, le parti du président turc. Beaucoup ont la vingtaine et n'ont connu que le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Elin est étudiante à l'université d'Istanbul. C'est de ce campus qu'est né le mouvement. Elle y a pris part dès ses premières heures. Cela lui a valu de passer 2 jours en détention.
Nous venons d'être libérés. Nous arrivons du campus. Beaucoup de nos amis sont toujours en état d'arrestation ou assignés à résidence. Mais nous sommes toujours là. Et il y a beaucoup de monde, vous voyez. On nous a enlevé notre jeunesse. On nous a enlevé notre avenir. Nous n'avons pas peur. Nous sommes ici. Ils ne peuvent pas vraiment nous faire peur. Ils arrêtent tout le monde, mais nous sommes là. Nous continuerons.
L'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, le 19 mars, a fait souffler un vent de révolte dans les grandes villes du pays. Des manifestations durement réprimées. Suite à ce rassemblement, une quarantaine de personnes seront arrêtées. En un mois, ils sont plus de 2000 à avoir été détenus, selon le gouvernement.
Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage de France 24 publié le 18 avril dernier. En effet, depuis l'incarcération du maire d'Istanbul et principal rival du président Erdogan, Ekrem İmamoğlu, des centaines de milliers de Turcs descendent dans les rues pour protester, mais comme vous avez pu l'entendre, ils font face à une répression sévère. On en parlera en première partie de cette matinale avec Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Et pour ce qui est du reste du programme, restez avec nous puisqu'on recevra le chanteur Pablo qui viendra nous parler de son premier EP avec Héloïse. Et vous aurez droit aussi à un flash info et quelques chroniques. Tout de suite, nous reprenons notre interview donc avec Dorothée Schmidt. Bonsoir.
Bonsoir.
À mes côtés, il y a Céline. Salut.
Bonsoir.
Céline.
Salut.
Je te laisse la parole.
Très bien. Alors, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Céline.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dorothée Schmidt. Alors, Dorothée Schmidt, vous allez nous parler de la situation actuelle en Turquie. Et donc, vous êtes une spécialiste de la Turquie, du Moyen-Orient plutôt, et directrice également du programme Turquie contemporain à l'Institut français des relations internationales, donc l'IFRI. Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi, actuellement, pourquoi la situation en Turquie est-elle tendue ?
Alors, en Turquie, on a depuis l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, donc le maire d'Istanbul est un personnage politique qui appartient à un parti d'opposition à l'actuel président. Président, c'est Recep Tayyip Erdogan, on ne le présente plus, il est là depuis plus de 20 ans en Turquie, c'est le maître absolu du pays. Et là, il a procédé, il a fait arrêter le maire d'Istanbul sur des accusations de corruption. Mais beaucoup d'autres charges pèsent sur la tête du maire d'Istanbul et on sent qu'en fait c'est une façon pour Erdogan d'essayer d'éteindre l'opposition puisque İmamoğlu est un personnage très charismatique qui était pressenti pour être le prochain candidat de l'opposition à la présidentielle en Turquie. Et on sent que le président Erdogan et son parti, l'AKP, sont un peu en bout de course. Ils sont au pouvoir depuis 2002. On a une usure du pouvoir. Et en face, on a une opposition qui, pendant très longtemps, avait beaucoup de mal à se structurer, mais qui relève la tête. Mmh. Et justement, puisqu'elle relève la tête, Erdogan a décidé qu'il fallait arrêter cet opposant pour finalement rendre les prochaines élections plus faciles pour lui, sachant qu'en principe, il ne peut pas se représenter, puisqu'il a déjà fait 3 mandats de président. Il va donc falloir aussi une manip constitutionnelle pour lui permettre de se représenter.
Justement, d'ailleurs, les prochaines élections, elles seront en 2028. Et donc, le premier rival d'AKP, c'est le parti CHP. Et donc, en soi, c'est quoi les revendications de ce mouvement à l'égard de AKP ?
En fait, le mouvement, c'est un mouvement pour la défense des élections. Derrière la mobilisation pour le maire d'Istanbul lui-même, c'est un mouvement qui demande à ce que la base de ce qui fait la démocratie en Turquie, et ça c'est ce que dit aussi même Erdogan lui-même, se vante depuis le début de sa présence au gouvernement et à la présidence d'être toujours élu par des élections qui sont assez propres. La Turquie est un pays qui a la réputation de tenir des élections. Alors, il y a en plus une participation extrêmement forte aux élections, toujours plus de 80% de participation. Donc c'est toujours des grands moments de mobilisation populaire, les élections. Et là, les Turcs ont l'impression qu'on va leur voler leurs élections, puisque finalement, on aura des élections où on sera obligé de voter pour Tayyip Erdogan. Donc ça, c'est la principale revendication, je pense. Mais on arrive aussi au bout d'une espèce d'entonnoir politique, où en fait, on a eu un très grand mouvement de mobilisation déjà en 2013. Vous êtes peut-être un peu jeune pour vous en souvenir.
Non, mais... Je m'en rappelle, j'étais là-bas d'ailleurs.
Oui, donc c'est votre premier mouvement politique, vous étiez à Istanbul.
Oui.
Vous êtes allé vous promener à Gezi,
au parc
Gezi.
Oui, c'est ça, je suis même allée prendre des photos, je me rappelle très bien.
Donc c'était la défense d'un espace vert qui était menacé à Istanbul et ça a donné lieu à une immense mobilisation qui a touché tout le pays et qui s'est éteinte à la fois parce que c'était juste avant l'été et c'est toujours un très mauvais timing pour manifester parce qu'après les gens partent en vacances et puis aussi parce qu'il y a eu une répression policière pour la première fois qui a été vraiment assez forte et ça c'est un premier moment de face à face entre l'opposition Istanbul et Recep Tayyip Erdogan dans la rue. Et après, on a eu quand même 2016 la tentative de coup d'État ratée, dont Istanbul aussi a été le principal théâtre. Et donc aujourd'hui, ces mobilisations, on fait toujours la comparaison avec Gezi, justement, avec le mouvement de 2013. La différence, c'est que le mouvement aujourd'hui, il est structuré par un parti politique, hein, il est structuré par le parti d'opposition, par le GEP. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui participent, comme on l'a dit. C'est un mouvement où il y a pas mal d'étudiants qui sont mobilisés. C'est une génération qui a vécu que sous la Turquie d'Erdogan. Et qui manifeste sa frustration de ne pas avoir d'alternative, finalement, de ne pas avoir d'autre choix que de continuer avec l'AKP.
Et alors, j'ai une petite question aussi. Vous l'avez dit, la différence avec le mouvement de Gezi, c'est que c'est structuré par un parti politique. Et justement, alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Özgür Özel, le chef du parti du premier parti d'opposition, du Parti républicain du peuple, fait actuellement un peu une tournée dans le pays. Il essaie de structurer cette contestation et il veut notamment provoquer des élections anticipées, puisque les prochaines sont en 2028. Est-ce que vous pensez que ça a des chances d'aboutir
Là, en fait, hier, on faisait le point avec mes collaborateurs en se disant mais quelle est la porte de sortie pour Erdogan ? Parce qu'on sait qu'il a toujours beaucoup de ressources. C'est quelqu'un qui a fait face déjà à des impasses et qui a toujours réussi à retourner la situation. Et souvent, on a une espèce de moment de flou et de flottement. Et là, c'est aussi l'impression qu'on a eue au début des mobilisations, c'est qu'en fait, en face, le pouvoir ne savait pas très bien comment s'y prendre. Et quand vous parlez d'une répression massive, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une répression qui est quand même très graduée. Il y a eu des arrestations, mais les gens sont mis en garde à vue, puis ils sont relâchés. On n'est pas dans une confrontation physique violente pour le moment. C'est aussi parce que l'opposition ne va pas à la confrontation, vraiment. Donc on a l'impression qu'Erdogan espère que le mouvement va s'épuiser. Et on a beaucoup d'interrogations sur le timing, parce que si les prochaines élections sont prévues en 2028, effectivement, pourquoi tout cet affolement-là ? Pourquoi tout le monde se précipite pour essayer de gérer la liste des candidats 3 ans avant les élections ? Alors, en fait, le calendrier électoral en Turquie, il est assez souple. Il y a plein de moments où les élections ne se font pas quand on l'attendait. Et là, effectivement, le GEP, le Parti républicain du peuple, demande des élections anticipées parce qu'il sait que, au vu des sondages, là, la mobilisation, elle est soutenue par 2/3 des Turcs et donc il gagnerait les élections. Et précisément, c'est tout ce qu'Erdogan veut éviter, puisqu'il est en train d'essayer de sécuriser les élections de façon à ce que lui soit seul maître à bord.
Mais alors, comment ça se déclenche des élections anticipées ? Il y a des conditions particulières ? Est-ce que...
Alors, je ne sais pas quelles conditions il faudrait pour arriver à les anticiper de 3 ans, parce que ça me semble quand même très importante, un changement très important. Mais ce qui est sûr, c'est que parce qu'il y a évidemment une petite souplesse à quelques mois près. Mais là, ce qui est important, c'est que l'opposition, elle a lancé une pétition pour avoir des élections anticipées. Donc il y a une espèce d'intelligence stratégique de la part de l'opposition sur les moyens de mobilisation et de contestation. Il y a à la fois la poursuite des manifestations qui sont organisées alternativement à Istanbul et dans une autre ville du pays. Et ça, c'est aussi très important parce que le GEP, le Parti républicain du peuple, il a gagné beaucoup de villes lors des dernières élections municipales. Et donc, on a une espèce de solidarité des villes qui sont gérées par ce parti aussi, qui peuvent localement être des très importants relais pour la mobilisation. Donc, si Erdogan, lui, compte sur l'épuisement des manifestations, on a l'impression que l'opposition, au contraire, elle essaie de s'inscrire dans le temps avec un calendrier assez calme, mais extrêmement régulier d'événements, et en poursuivant cette pétition, en espérant que des millions et des millions de Turcs vont voter. Je pense qu'on est à 7 ou 8 millions de signataires moment, sachant qu'on a 13 millions de personnes qui s'étaient déplacées pour voter pour la primaire du parti. Le parti avait eu l'idée assez lumineuse d'ouvrir la primaire à tous les Turcs, donc pour faire une espèce de sondage en temps réel, et énormément de gens sont allés voter. Donc leur but, c'est de montrer que Erdogan est minoritaire en fait dans le pays. Alors, sur le déclenchement des élections, si on passe par un changement constitutionnel, ce qui est nécessaire en fait pour permettre à Erdogan d'être élu, à ce moment-là, de façon quasiment automatique, ça va déclencher des élections. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on fait des changements majeurs dans la règle des institutions publiques, alors on remet à zéro les calendriers électoraux. Et donc on recommence, et à ce moment-là, on a tout ce cycle électoral qui recommence.
D'accord. Ce qui est intéressant, justement, pourquoi Erdogan fait tout ça 3 ans avant, c'est que pour l'instant, il sait que l'Union européenne n'a pas vraiment... même si l'Union européenne pose des sanctions, il sait qu'il a une place importante dans l'OTAN. Et c'est bien ça.
Alors, je pense qu'Erdogan considère qu'il a une espèce d'immunité internationale parce qu'il a installé la Turquie comme une puissance incontournable. En tout cas, ça, c'est l'image qu'il cherche à donner. Que rien ne peut toucher la Turquie et que donc tout le monde doit s'arrêter aux frontières et qu'on n'a aucune interférence admissible dans les affaires intérieures de la Turquie. Est-ce qu'il est dans une position si confortable sur le plan international? Bon, je ne suis pas complètement sûre. Les Turcs suivent avec une certaine inquiétude les débuts, l'anticipation des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, qui sont gérés par Donald Trump, ce qui n'est pas une sécurité absolue sur le résultat, comme on le sait. Ils sont inquiets de la dégradation des conditions au Levant, avec la poursuite des opérations à Gaza, encore quelques opérations au Liban, des opérations d'Israël en Syrie également, les conditions de liberté de navigation en mer Rouge, qui sont menacées aussi par les opérations des Houthis, la situation dans le Caucase qui est encore incertaine avec l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui est à deux doigts d'être signé mais pas tout à fait. Donc en fait les Turcs ils sont là dans un moment, et puis les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, très important aussi. Mm-hmm. Ça c'est vraiment une incertitude de sécurité très très forte qui pèse aussi sur la Turquie, parce que là je vous parle que de choses qui sont dans le voisinage très proche de la Turquie. Donc est-ce que les Turcs aujourd'hui ont vraiment la haute main? Est-ce que c'est vraiment eux qui peuvent, comme Erdogan le dit tout le temps, nous aider à sécuriser l'Europe? Est-ce que leur contribution est indispensable à la sécurité européenne? Ou est-ce qu'aujourd'hui les Turcs ont un peu peur de se retrouver tout seuls dans une région où toutes les conditions de sécurité sont en train de se dégrader en même temps?
Merci beaucoup. On va poursuivre cet entretien juste après une petite pause musicale. On va écouter un peu de Dali et de Philippe Catherine.
J'aimerais avoir beaucoup de défauts, mais j'en ai aucun. J'aimerais être présent quand il faut, mais je serai là que quand ça va bien. Je me sens vide, je vois vraiment pas comment je pourrais aimer quelqu'un. Je suis bon qu'à faire des chansons tristes ou des morceaux qui servent à rien. Rien ne sert à rien, sauf ce que tu dis. Ce que tu fais, rien ne sert à rien. Rien ne sert à rien, sauf ce que tu dis. Mais pas ce que tu fais, rien ne sert à rien. Rien à faire de la journée. Je sais pas ce que je veux devenir. Quand je dis que je fais, je regarde le bout de mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tout sert à quelque chose. Ça veut dire que si rien n'est pas rose, ça veut dire que tout est rose. Rien ne sert à rien, sauf ce que tu dis. Mais pas ce que tu fais. T'as compris?
Je vais arrêter de dire pour le mieux. Je vais arrêter de faire pour le pire. Je vais essayer d'agir un peu. Au moins juste le temps de le dire. J'ai un peu peur de faire ce que je dis. C'est souvent bien mieux que ce que je peux faire. Mais peut-être que si j'agis, il s'agira plus que de me taire.
Rien ne sert à rien, sauf ce que tu dis. Mais pas ce que tu fais, rien ne sert à rien. Rien ne sert à rien, sauf ce que tu dis. Mais pas ce que tu fais, rien ne sert à rien. Rien ne sert à rien, sauf ce que tu dis. Mais pas ce que tu fais, rien ne sert à rien.
C'était Chanson triste de Dali et Philippe Catherine. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est 19h40 et c'est toujours la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie Moyen-Orient de Moyen-Orient, pas Moyen-Normand, c'est pas ça, de l'Institut français des relations internationales, donc l'IFRI, avec qui nous revenons sur le mouvement de protestation qui a lieu en Turquie depuis le 19 mars dernier. Et je suis toujours avec Céline qui mène cette interview.
Donc on disait tout à l'heure que justement la Turquie est actuellement dans une tension majeure et... Donc comment le gouvernement, est-ce qu'il arrive à gérer cette crise, clairement?
Donc Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que je crois que le gouvernement espère que la crise va s'épuiser. Mais ce qui est intéressant pour nous, observateurs, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des signes de dissensus au sein du gouvernement, au sein des autorités. Mmh. On a des rumeurs que des ministres ont dit à Erdogan qu'il fallait qu'il négocie avec l'opposition, l'abandon, par exemple, des charges pour terrorisme qui avaient été retenues au départ contre Ekrem İmamoğlu, contre le maire d'Istanbul, est venu à l'issue d'un débat aussi en interne, parce que quand même le problème, c'est qu'en même temps, l'AKP fait un processus de paix avec les Kurdes, avec le DEM. Donc effectivement, attaquer le maire d'Istanbul en disant il s'est entendu avec les Kurdes pour se faire élire, tout en disant qu'on fait un processus de paix avec les Kurdes de l'autre côté, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, le parti DEM a dit qu'il y avait une vraie dégradation des conditions démocratiques en Turquie, et que dans ces conditions, c'était quand même très très compliqué de poursuivre en bonne foi le processus de paix. Donc on a l'impression qu'il y a des failles en fait au sein de l'AKP. On n'arrive pas très bien à savoir jusqu'où. Et ce qui est très frappant aussi, c'est que Erdogan est quand même assez âgé. Il avait dit lors de la campagne pour les présidentielles et les législatives de 2023 que c'était sa dernière campagne, que donc il ne comptait pas se représenter. Que c'était à cette condition qu'il demandait à l'électorat, à ses supporters de voter pour lui. Et puis là, on a l'impression que tout est reparti complètement dans l'autre sens. Donc il n'y a pas de succession évidente qui soit en préparation. Donc on est dans une boîte noire. On a l'impression que c'est quand même une espèce d'impasse. Avant, c'était une boîte noire qui était un peu créative et on attendait des solutions étranges mais très créatives. Et là, on a un peu l'impression que finalement, Erdogan a utiliser tous les leviers qu'il avait, donc cette répression un peu graduée en arrêtant des gens, en faisant taire les médias, c'est-à-dire en infligeant aussi beaucoup de sanctions aux médias qui faisaient des reportages sur les mobilisations, en surveillant les réseaux sociaux, en interdisant l'accès aux réseaux sociaux, en faisant des procès à nouveau pour insultes, dans toutes sortes de types d'insultes possibles. En essayant de contrer l'appel au boycott que l'opposition avait fait en appelant lui ses supporters à les consommer un maximum. Donc on est dans un petit jeu comme ça de ping-pong. Et puis en ouvrant cette espèce de processus de paix avec les Kurdes, dont on sentait que c'était aussi fait pour récupérer finalement l'électorat kurde, pour essayer de reconsolider cette base électorale qui était en train de se dégrader du côté d'Erdogan. Mais il a un autre problème aussi, c'est que son principal allié actuel, qui est le Parti d'Action Nationaliste, le MHP, donne un peu des signes ambivalents. C'est-à-dire que le patron du MHP, Devlet Bahçeli, on se demande s'il soutient les élections anticipées. Il fait des déclarations qui sont un peu contradictoires chaque jour. Donc on a un sentiment de fragilisation générale de l'organisation du régime qu'Erdogan avait mis en place et avait très fortement consolidé depuis la tentative de coup d'État de 2016.
Oui, et forcément, donc, ça impacte l'aspect économique de la Turquie. Donc, c'est qu'il y a également une grande inflation dans la Turquie et donc elle est liée par le gouvernement, je suppose.
Oui, alors la Turquie, elle est dans une situation économique qui n'est pas très bonne de façon générale. Le taux de croissance n'est pas formidable, mais enfin, il est quand même meilleur que ceux de la plupart des pays européens, que le nôtre, par exemple, en France. Simplement, c'est un pays où on a alors à la fois beaucoup d'inflation, effectivement. On est reparti sur une inflation à deux chiffres absolument énorme. Et puis, c'est un pays où les inégalités se sont beaucoup creusées sous l'AKP. Et où, comme dans tout pays où on a une crise économique, la question de la corruption est revenue au premier plan. Et la corruption, c'est un mal endémique en Turquie. Il ne faut pas oublier qu'en 2002, quand Erdogan a créé son parti, il l'a créé en 2001, il est arrivé aux élections en 2002, sur un programme anticorruption, au moment d'une très grave crise économique, qui avait vraiment mis le pays à genoux. Et à l'époque, le pays avait une dette très forte vis-à-vis de l'extérieur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais donc, il y a un précédent quand même. C'est-à-dire qu'il y a un précédent d'une très grosse crise économique qui a fait totalement basculer le régime turc, qui a complètement balayé les anciens partis politiques de centre-droit qui existaient à l'époque, qui a fait entrer l'AKP sur ce programme de parti propre, de parti qui allait faire repartir un capitalisme purement turc, purement anatolien. Et aujourd'hui, on arrive à la limite d'un système de prédation clientéliste, de détournement d'argent. C'est pas un hasard si Erdogan accuse le maire d'Istanbul de corruption, c'est aussi pour éviter lui-même tous les procès d'intention ou les réels procès en corruption qu'il pourrait y avoir. Donc il y a une grogne sociale extrême en Turquie, parce que la classe moyenne est appauvrie, a beaucoup de mal à joindre les deux bouts, mais vraiment pour des choses de tous les jours, hein, pour faire à manger. Et İmamoğlu avait beaucoup fait de social à Istanbul. C'est un maire qui a eu une très forte fibre sociale, parce qu'il a très bien compris que c'était important aussi pour regagner l'électorat sur Erdogan, qui lui-même faisait beaucoup de clientélisme, beaucoup d'aide aux très pauvres. Donc İmamoğlu, il a aidé les mères de famille, les étudiants, les familles pauvres. Et il savait que c'était très important. Et donc aujourd'hui, il y a tous ces gens-là qui sont potentiellement dans la rue parce que ils comprennent pas pourquoi la Turquie aujourd'hui n'est plus aussi prospère qu'elle l'était il y a 10 ans et pourquoi la croissance ne se répartit pas équitablement envers tout le monde.
Donc j'imagine que ça aussi a un énorme impact sur l'avenir des jeunes. Donc entre autres, est-ce qu'un jeune peut penser justement avoir un avenir solide en Turquie actuellement ? Oui.
Le paradoxe, en fait, de cette mobilisation, c'est que à Gezi, déjà, on a vu beaucoup de jeunes aller dans la rue, et là, encore à nouveau, c'est qu'en fait, la Turquie a vraiment construit un nombre d'universités énorme depuis que l'AKP est au pouvoir. Alors, on a beaucoup d'universités privées. Donc, le niveau d'éducation supérieure, le niveau moyen, a augmenté. Et il y a une vraie problématique de débouchés. Parce que le modèle de croissance de la Turquie n'est pas aussi sophistiqué que ce qu'il faudrait pour absorber tous ces nouveaux diplômés. Donc beaucoup vont s'exporter. Bon, d'abord, il y en a beaucoup qui vont déjà faire une partie de leurs études à l'étranger pour échapper aussi à cette ambiance liberticide qu'on a en Turquie. Il y a beaucoup de parents, moi j'entends énormément de parents qui, dès que, même des enfants tout petits, qui planifient de sortir leurs enfants du pays parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'avenir dans ce pays. Donc on a un problème de croissance démographique et de croissance de la population diplômée par rapport au modèle économique de la Turquie qui reste finalement pas encore très sophistiqué et aussi à cette absence de répartition de la richesse en Turquie avec l'impression que tout est capté par Erdogan et ses amis et ses copains et ses réseaux clientélistes en fait.
Oui, donc avec l'ampleur que cela prend, il y a également donc moins de liberté d'expression et donc beaucoup de personnes également qui se font arrêter. Et dans ce contexte-là, comment justement ceux qui s'opposent au gouvernement arrivent toujours à se mobiliser malgré les arrestations ?
Alors moi j'étais à Ankara la semaine dernière où j'ai vu une collègue qui est professeure à l'Université technique du Moyen-Orient, TUC, qui est une très grande université de gauche, qui a toujours une tradition de très forte mobilisation étudiante et qui m'expliquait comment les étudiants s'étaient organisés pour manifester dès le début. Et qu'ils étaient très surpris parce qu'on a toujours des tas de préjugés contre la Gen Z, les étudiants qui sont hyper individualistes, très insouciants politiquement. Et qu'en fait, il leur avait dit écoutez, vous nous donnez des conseils pour qu'on se protège, vous nous dites de rester à la maison, vous avez tout raté, donc c'est pas la peine de nous parler, hein, on va se passer de vos conseils et on va aller à la mobilisation. Là où on a quand même une montée de la répression, c'est que dès le début, il y a eu les canons à eau et les balles en caoutchouc. Dès le début. Et moi, je me souviens, au moment de Gezi, il y avait des lacrymos, hein, mais il n'y avait pas, au début, un appareil aussi violent physiquement pour réprimer les manifestants. Même si déjà, les gaz lacrymogènes en Turquie, je ne vous les conseille pas du tout, parce qu'ils sont assez costauds. Donc, même quand vous êtes très très loin, vous suffoquez assez rapidement. Mais ça veut dire que là, les étudiants étaient prêts tout de suite à supporter un niveau de violence physique qui était élevé. Mais ce qui les empêche de manifester, ce n'est pas ça. C'est les technologies de reconnaissance faciale et le fait qu'on leur dise vous allez être fichés et ensuite vous pourrez plus, par exemple, vous présenter au concours pour la fonction publique, vous ne pourrez plus jamais travailler, on fera en sorte que vous soyez blacklistés systématiquement. Et ça, c'est quelque chose qui leur fait peur. C'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas que des mobilisations étudiantes. C'est très important que ce soit une mobilisation qui soit transgénérationnelle, qui soit transcommunautaire aussi. On ne parle pas beaucoup de la contribution des Kurdes à ces mobilisations, mais les Kurdes ont été très absents au moment de Gezi. C'était exactement la même configuration, il y avait un processus de paix. Or là, le DEM, le parti kurde, a dit qu'il était en appui à İmamoğlu quand même, et est venu manifester, même si c'était moins visible peut-être que ça n'aurait pu l'être, parce que évidemment il y a cette ambivalence du processus de paix qui est là en même temps, mais quand même il y a une mobilisation qui touche beaucoup de gens différents, beaucoup de Turcs différents, de générations, de niveaux de vie, de colorations idéologiques différentes. Et ça, c'est parce que, je le répète, les dernières élections, notamment les municipales, ont montré que l'AKP était minoritaire dans le pays. Et donc, ça n'amène nulle part de vouloir s'accrocher au pouvoir dans un pays où les élections, normalement, fonctionnent, sont libres, dans un pays où il y a quand même une vraie concurrence politique. Mmh. Et là, ce qu'Erdogan veut, c'est tuer la concurrence politique en Turquie.
Merci beaucoup. Pardon. Ce sera la fin de cet entretien, malheureusement. Merci, Dorothée Schmidt, d'avoir été avec nous. Pour rappel, vous êtes responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Merci. Ne nous quittez pas, car tout de suite, c'est l'heure du Flash Info. Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir, les actus du jour que vous avez ratées. International, le cortège funèbre en hommage au pape François a quitté ce matin la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, là où le pape a vécu de son élection en 2013 à sa mort ce lundi de Pâques. Le cercueil a trouvé sa place à la basilique Sainte-Pierre où les fidèles pourront se rassembler dès aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi soir. Et puis du nouveau sur le conflit financier qui s'installe entre les États-Unis et l'Europe notamment. La Commission européenne sanctionne les géants de la tech, Meta et Apple se voient donc contraints de payer respectivement une amende de 200 et 500 millions en raison de clauses abusives. Pour contexte, ce sont les premières prononcées depuis l'an dernier, date de l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur les marchés numériques. De retour à Paris, le procès de Meta se poursuit, mais cette fois-ci sur la scène médiatique. C'est 200 médias, dont des quotidiens régionaux et nationaux, d'audiovisuels publics et privés, qui ont déposé plainte ce jour au tribunal des activités économiques de Paris pour pratiques illégales à l'encontre du géant américain, qui est accusé à la fois de pratiques commerciales déloyales, d'exploitation de données sans consentement des utilisateurs, à des fins donc publicitaires et au détriment des 10 médias. Société maintenant, suite à l'agression du rabbin d'Orléans qui s'est produite en pleine rue le mois dernier, le suspect interpellé est jugé au tribunal des enfants. L'audience a eu lieu cet après-midi en huis clos et le prévenu serait âgé de 16 ans et également poursuivi. Le prévenu serait âgé de 16 ans et sera également poursuivi pour violence psychologique à l'égard du fils de la victime présent au moment des faits. Après avoir nié puis plaidé la simple défense, le jeune homme serait impliqué dans 3 procédures judiciaires depuis fin 2024. Cette agression à caractère antisémite prend place dans les 1570 actes similaires recensés l'année passée. Sport, maintenant, la judokate française Chirine Boukli, qui avait remporté la médaille de bronze aux Jeux de Paris, remporte désormais une 4e médaille d'or de rang européen face à son adversaire portugaise, Catarina Costa, et pourra peut-être donc se placer aux côtés des 9 judokas français qui ont reçu 5 titres de ce même rang européen. Et enfin, justice encore, mais verte pour une fois, 2 Belges tout juste majeurs ont comparu au tribunal de l'aéroport international à Nairobi au Kenya, après avoir été arrêtés il y a de ça un mois pour possession illégale de milliers d'insectes, un nombre important de fourmis vivantes contenues dans des tubes à essai à destination des marchés de contrebande d'animaux exotiques en France et en Asie. Une affaire dite historique, mais aussi un acte de biopiraterie, atteste l'Agence nationale de conservation qui a déposé plainte. Merci de m'avoir écouté.
Merci Éléonore. Et tout de suite, on va s'écouter Oulala de Hadès de Planète. Restez bien sur Radio Campus Paris.
Just stacks, fucking big, yes, dans un big bag, big money shit, big stack pour la petite reuse. Moi je garde la petite money shit, big stack pour la petite reuse, big bags, fucking big, yes, dans un big bag, big money shit, big stack pour ma lil sis. For ma lil sis. Les rêves c'est expensive, mes bras sont extensibles, j'suis qu'une patate sensible. Si tu me tires dessus, manque pas ta cible. J'veux plus ton truc, c'est même pas ta cible. Ouh, oulala, mamie veut le butter et la moulaga. J'lui dis ouh, maman, oulala, on est le 23 du mois, s'te plaît, va là-bas.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'était Oulala d'Hadès de Planète, c'est bien la matinale, on est en direct sur le 93.9 FM.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et il y a eu un petit changement en plateau, je suis avec de nouvelles personnes, notamment Fabien, notre chroniqueur régulier qui est là pour nous présenter ses infos insolites. Fabien, on t'écoute.
Bonsoir. Et donc on va partir à Bégrolles en Mauges, c'est près de Cholet dans le Maine-et-Loire, où plusieurs personnes ont tenté de battre le record du monde de lancer d'œufs. Tout au long du week-end, dans le cadre de la traditionnelle fête des œufs durs, donc forcément, le lancer d'œufs a fait son retour. Donc à l'origine quand même, le jeu il permettait de liquider le surplus d'œufs non consommés pendant la période du carême. Ce sont des œufs crus qui sont impropres à la consommation qui ont été utilisés. Alors le principe il est très simple, c'est chaque binôme est composé d'un lanceur et d'un receveur. Ce dernier, protégé d'un sac poubelle, doit attraper l'œuf avec la main et sans le casser évidemment. De nombreux binômes, pour la majorité des ados et des adultes, ont tenté de battre le record du monde qui est quand même de 47,5 m. Lundi à 16h30, deux adultes se sont rapprochés du record avec 44 mètres. On ne dit pas qu'ils étaient chargés du nettoyage ou de l'omelette. Et puis après l'heure, ce n'est plus l'heure, c'est deux passagers du Rhapsody of the Sea qui l'ont appris à leurs dépens. Ils ont vécu une scène aussi stressante qu'embarrassante le 3 avril dernier sur l'île de Saint-Kitts-et-Nevis dans les Caraïbes. De retour au point de rendez-vous avec 30 bonnes minutes de retard sur l'horaire indiqué, les deux voyageurs ont insisté au départ du paquebot, juste sous leurs yeux. En prime, ils ont eu droit aux sifflets et aux huées des autres passagers qui les narguaient copieusement. À la décharge de l'équipage, ce navire de croisière, qui en configuration maximale embarque quand même 2400 passagers, ne peut pas se permettre de composer avec les retards, les oublis ou les négligences de quelques-uns. Ce jeune couple aura sans doute retenu la leçon. Et puis, on part au Mexique. Le Mexique a été témoin de l'apparition d'un fantôme. C'est du moins ce qu'assure Ricardo Gallardo Cardona, le gouverneur de l'État San Luis Potosí, pour justifier la présence d'une femme nue au balcon de son palais le 9 avril. Les faits se sont produits lors d'une manifestation d'enseignants. Une femme entièrement déshabillée a été filmée près d'une fenêtre. Une scène furtive rapidement devenue virale. Ricardo Gallardo a assuré qu'il s'agissait d'une apparition de la défunte impératrice Carlota, connue aussi sous le nom de Charlotte de Belgique, morte il y a 98 ans. Ricardo Gallardo est même allé plus loin en organisant lui-même un paranormal tour, une visite nocturne de la mystérieuse pièce. Cette dernière, selon le gouverneur, était inaccessible et n'aurait jamais été occupée, évidemment. Il a évoqué un endroit abandonné où il n'y a pas de meubles et une porte toujours scellée avec une clé. Il a ensuite annoncé que la pièce allait être bénite et exorcisée afin d'éviter que de nouvelles apparitions ne se reproduisent. Et enfin, pour terminer, samedi, 21 robots humanoïdes se sont mesurés à quelques 12 000 coureurs lors du semi-marathon de Yizhuyang à Pékin, en Chine. Des images ont montré les robots courant côte à côte avec leurs équipes techniques dans une voie séparée des participants humains. Selon les organisateurs, cet événement marque une étape importante dans le développement des robots en testant leur agilité et leur endurance sur un terrain accidenté.
Merci Fabien, reste plus qu'à savoir si les robots courent plus vite que les humains ou pas. Il est 19h40 et c'est l'heure du zoom sur la matinale.
Le zoom dans la matinale de 19h.
Et dans le zoom ce soir, nous recevons Pablo. Salut.
Salut.
Tu es chanteur et comédien et tu sors prochainement ton EP « Peux-tu encore danser ?» dont on peut déjà écouter un extrait puisque le titre « La fin » est déjà sorti. Vous aurez le droit, chers auditoristes, de l'entendre à la fin de cette interview qui sera menée par Héloïse qui est à côté de moi.
Bonjour Maïwenn.
Bonjour Pablo.
Salut.
Maïwenn, t'as déjà présenté un petit peu en quelques mots. Donc, tu es à la fois compositeur, interprète et acteur, donc un artiste polyvalent. Et aujourd'hui, on va parler du single appelé La Fin que tu as sorti le 11 avril, ainsi que de ton tout premier EP intitulé Petit encore danser, prévu pour dans un mois pile. Alors, avant de parler de ton EP à venir, j'aimerais revenir un peu en arrière. Si on regarde sur les plateformes, on a l'impression que ton projet musical est tout récent, puisque ton premier morceau date de l'an dernier. Mais ton histoire avec la musique et l'écriture remonte à bien plus loin que ça. Je sais que tu as débuté par le rap pour bifurquer ensuite vers la chanson française. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer par là, puis de changer de style ou de voix ?
Je pense qu'il y a une forme de... Comment dire, il y a quelque chose de très pratique avec le rap, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour en faire. Enfin, moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout instrumentiste de base. En fait... À la base, j'écrivais juste des textes dans ma chambre, dans mon coin. C'était une manière d'un peu de m'évader. J'écrivais des histoires. J'avais très très envie d'écrire un livre même, je m'en souviens, quand j'étais petit. Et le problème, c'est que j'étais jamais assez patient. Je pense que je devais manquer grandement de maturité, ce qui est normal. Et je tenais jamais assez longtemps sur une idée. Et donc j'avais besoin de ressentir quelque chose d'immédiat et de voir le résultat immédiatement. Et donc je grandis pile au moment où YouTube explose, ce qui est génial pour nous parce que le rap a explosé sur YouTube. Donc c'est la musique qu'on entendait partout, tout le temps. J'ai un grand frère qui en écoutait aussi beaucoup à la maison. J'ai découvert une artiste qui s'appelle Kenny Arcana qui m'a, ravagé la tronche et que j'ai écouté pendant des années et des années. Et donc forcément, voilà, il y avait quelque chose là-dedans qui me plaisait. Et puis sur YouTube, il y a plein de ce qu'on appelle des beatmakers, des compositeurs, hein, tout simplement, qui ont commencé à envoyer plein d'instrumental sur YouTube. Et du coup, je pouvais, comme tout le monde, écrire dessus et on pouvait se mettre au coin d'une rue avec des potes, avec juste une enceinte et on pouvait déjà faire de la musique sans être passé par un côté académique, avoir appris à jouer un instrument et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, naturellement, j'ai commencé à mettre de plus en plus de mélodies là-dedans. Ayant fait un bout de chemin, tu rencontres plein de directeurs artistiques et plein de gens qui commencent à te dire « Ouais, mais enfin, mec, tu sais, aujourd'hui, il y a les playlists rap, il y a les playlists chansons, enfin, t'es où ?» Et donc, tout ça, tu te poses plein de questions et c'est pas tellement pour leur plaire plus que moi pour assumer qu'en fait, pendant toute cette période où j'écoutais du rap et tout, le premier disque que j'ai acheté, c'était Oasis, que j'ai bouffé en long, en large, en travers. J'écoutais Radiohead, j'écoutais Black Sabbath, j'écoutais l'album J'accuse de Saez beaucoup. Donc il y avait aussi énormément de rock et c'est comme si pendant des années, je l'avais un peu laissé sous le tapis et puis que d'un coup, j'ai dit non, en fait, c'est ça que je veux faire.
Ok. Et maintenant, du coup, est-ce que tu as trouvé dans la chanson ce que tu y cherchais en bifurquant vers cette voie-là ?
Ouais, complètement. Je pense que il y a dans la mélodie, il y a quelque chose, il y a une sensation quand tu trouves une mélodie que je retrouvais pas en retrouvant des flows et tout ça. Et je pense que le type d'image que j'avais envie de mettre en écriture trouve pleinement sa puissance, je pense, dans la mélodie.
Ok. Donc on va parler de ton EP « Peux-tu encore danser ?» qui sortira dans un mois tout pile, comme je le disais, donc le 23 mai. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Qu'est-ce que tu as eu envie de raconter dans ce premier EP chanté ?
Je l'ai écrit sans me rendre compte que j'étais en train d'écrire cet EP là précisément. J'avais un autre projet en tête en fait, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'avais une envie, un besoin de consolation. Je l'ai commencé à vraiment l'écrire aux alentours de... Enfin, il y a quelques années, je devais avoir genre 22-23 ans. J'avais résolu, disons, quelques trucs. Je pense que c'est un âge où, ça y est, on a définitivement fermé la porte de l'adolescence, mais on s'en rend pas complètement compte. Et c'est les deux années, là, jusqu'à mes 25 ans, où j'ai réglé un tas de choses à l'intérieur qui me bloquaient, des complexes, plein de choses, relationnel aussi, disons, et bizarrement derrière ça va beaucoup mieux, on est beaucoup plus léger et le monde peut partir en couille comme c'est le cas aujourd'hui, bizarrement t'as quand même le sourire, donc j'avais besoin de donner ça aux gens derrière, j'avais besoin d'avoir cette consolation que j'avais ressentie à ce moment-là, j'avais envie de le donner, pour des raisons évidentes je pouvais pas appeler l'EP Consolation, parce qu'il y a une super artiste qui s'appelle Pomme qui a appelé son projet comme ça, mais tous les morceaux ont un peu cette sensation, beaucoup de morceaux de l'EP en tout cas ont cette sensation, disons, de consolation, de quelque chose d'assez agréable.
Ouais, c'est marrant parce que justement le titre de l'EP, on le retrouve dans le refrain de Mama Baila, qui apparaîtra sur l'EP. Et donc dans ce morceau, c'est un fils qui soutient sa mère, qui observe aussi sa mère, qui traverse une rupture. Et donc cette phrase, je pense, à la fois un défi, on va dire une mise au défi et un encouragement peut-être. Et d'une certaine manière, ouais, c'est aussi une thématique qu'on retrouve dans la fin. Tu t'en parles, hein, consolation, encouragement, etc. Et finalement, c'est, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'anime en tant qu'artiste que d'apporter de la joie, du soleil avec tes compositions. Peut-être parce que c'est quelque chose que tu as vécu et que tu as envie de faire transmettre.
Complètement. Puis je ne sais pas pourquoi je culpabilise moins, de moins en moins, mais j'ai eu énormément de chance dans la vie. J'ai un pas d'une famille, une famille assez modeste, en fait, même très modeste. Et j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie très très jeune et qui elle est d'une famille un peu plus qui avait plus de moyens et donc très vite ils m'ont pris sous leur aile aussi. J'ai pu voyager, j'ai pu faire tout un tas de choses que j'aurais pas pu faire avec ma famille de base, je pense. Ils m'ont ouvert sur le monde, j'ai entendu plein de langues. Au moment où il a fallu que je fasse des études, j'avais pas du tout envie d'en faire, je voulais écrire des chansons et le cinéma est venu me chercher. J'ai eu un rôle très vite, après le bac, 2 mois après, j'avais un premier rôle pour un film d'auteur et je pouvais dire à mes parents qui sont cinéphiles que j'allais pas faire d'études et que j'allais en plus gagner ma vie. J'ai gagné ma vie très facilement, du coup, j'ai pas eu à faire de petits jobs, j'ai été complètement épargné par ça, ce qui est pas du tout le cas d'une immense majorité de mes potes qui ont pour le coup eux fait des petits jobs et c'est devenu leur vie ces petits jobs et on sait que ça peut abîmer le corps et l'esprit et donc voilà j'estime que j'ai eu énormément de chance dans la vie et que la moindre des choses quand on kiffe autant c'est essayer d'en donner aux gens quoi.
Génial. J'aimerais qu'on parle de live un peu maintenant puisque ouais. Tu vas défendre ton EP le 26 mai sur la scène de la Boule Noire. Ouais. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que tu as construit ce live et aussi, puisque tu le mentionnais, tu es également acteur au-delà d'être musicien. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que ton expérience d'acteur, ça t'aide à lâcher prise, à incarner tes morceaux sur scène?
Ouais. Dans un premier temps, le cinéma m'a aidé par rapport plus à mon image, à moi-même. Le fait d'être obligé de me voir, d'être obligé de me regarder, ça m'a un peu détendu et puis ça te permet de comprendre que tu fais qu'une partie de ton travail. Il y a un endroit où en fait c'est les gens qui vont venir avec ce qu'ils ont d'histoire, ce qu'ils ont d'humeur, de la journée, enfin de tout pour venir apposer leur projection qu'ils ont de toi et voilà. Et donc ça se fait un peu à deux quoi, c'est un peu une danse et le problème c'est qu'on danse tout seul et puis qu'après l'autre danse avec ce que tu lui laisses. Mais donc ça c'est la première chose qui m'a ça a été un grand déclic de comprendre ça et puis maintenant oui le cinéma m'aide parce que il m'a obligé à passer par des personnages qui pouvaient être très loin de moi et tout et il y a des chansons du coup que j'ai écrites en premier lieu en pensant à une forme d'interprétation. J'avais un peu envie de jouer des personnages et tout et la chanson est née de ça. Donc clairement ça m'aide et puis surtout ça m'aide aussi parce que être obligé de faire des improvisations en casting devant 10 personnes qui te regardent un peu avec des yeux enfin bref ça t'oblige à gérer le temps à faire en sorte que les gens soient avec toi et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant le live j'essaye toujours de raconter une histoire, on va voir quelle histoire je vais réussir à raconter à la Boule Noire. On est encore en train de bosser dessus là.
Ok, il reste quelques places pour les gens qui nous écoutent.
Grave, foncez ouais. Dessus là, parce qu'il n'en reste pas beaucoup.
Ok, génial. Bah, merci beaucoup Pablo d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver le dernier single de Pablo intitulé La Fin sur toutes les plateformes. Son EP Peux-tu encore danser, on en a parlé, il sera disponible le 23 mai. Il y aura aussi une session live de différents morceaux de l'EP qui sera disponible ce jour-là. Et donc il est encore temps de prendre vos places pour son concert à la Boule Noire le 26 mai.
Merci.
Oui, merci Héloïse. Merci Pablo d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et vous avez de la chance, auditeur et auditrice, parce qu'on va écouter ça tout de suite. On va écouter la fin.
Trop cool.
Je sais que tu te dis à quoi bon sortir du lit, la larme, tu la retardes encore. Dehors ça pue la mort, enfin c'est ce que tu dis. T'auras jamais tout vu, donc à quoi bon courir si le monde tourne plus vite que toi? À quoi bon courir si le monde tourne plus vite que toi? Et si c'est pas la bonne, c'est pas la fin du monde. T'as qu'à regarder dehors, ça c'est la fin du monde. Sans effort, c'est l'amour pour les cons. T'en feras des fausses notes, c'est pas la fin du monde. Alors ouais, t'as le mal du siècle, je connais bien ça. Ça fait un mal de chien. Mais en vrai, t'as honte de
ta collection d'échecs. Et c'est pour ça que tu ne tentes plus rien. Mais à quoi bon dormir, autant rêver les yeux ouverts. À quoi bon dormir, autant rêver les yeux ouverts. Et si c'est pas la bonne, c'est pas la fin du monde. T'as qu'à regarder dehors, ça c'est la fin du monde. L'amour sans effort, c'est l'amour pour les cons. T'en feras des fausses notes, c'est pas la fin du monde. Et si c'est pas la bonne, c'est pas la fin du monde. T'as qu'à regarder dehors, ça c'est la fin du monde. L'amour sans effort, c'est l'amour pour les cons. T'en feras des fausses notes, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Tu vas bida toute la nuit pour t'éteindre. Quand le soleil s'allume, tu voudrais détruire toute ta vie pour rien. Quand le soleil s'allume. Et si c'est pas la bonne, c'est pas la fin du monde. T'as qu'à regarder dehors, il te reste tout le temps pour faire du mieux que tu peux. Et puis quand la nuit tombe, avec des si on peut refaire tout un monde.
Et si c'est pas la fin. Et si c'est pas la fin. Et si c'est pas la fin. Et si c'est pas la fin.
C'était La Fin de Pablo, artiste que nous avons reçu ce soir dans la matinale. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il est 19h53 et ça sonne bientôt la fin de la matinale. Mais rassurez-vous, puisqu'on va encore rigoler avant que ce soit terminé. Puisqu'en studio avec moi, il y a Delila. Salut.
Salut Maïwenn.
Et je crois que tu voulais nous parler d'un petit fait divers nantais qui remonte à une dizaine d'années, il me semble.
Absolument.
Bien.
Absolument. Alors cette semaine, je viens vous parler d'un événement qui vient tout simplement basculer la scène du fait divers. Un véritable tremblement de terre, parce qu'on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès.
C'est pas vrai.
Enfin, c'est sans doute ce qu'on pourra lire d'ici 3-4 jours, je pense, qu'on a enfin mis sur le dossier des vraies personnes compétentes de ce pays, à savoir les influenceurs. Et puis, il y a 5 jours, le blogueur et influenceur Aquababe a annoncé qu'il se mettait sur la piste du dangereux présumé quintuple meurtrier de toute sa famille. Lui et sa communauté au nom hyper menaçant, à savoir les chippies. Si j'étais Xavier Dupont de Ligue, je serais clairement en train de chier dans mon froc. C'est un nom à débarquer dans ta cachette pour écrire sur les murs avec des stylos à paillettes avant de coller une feuille d'idole. Hein. Alors Aquababe, de base, son fonds de commerce, c'est plutôt les ragots concernant la télé-réalité, donc j'imagine qu'il doit être en train de monter une nouvelle saison des Anges avec un casting de zinzin, genre Guy Georges, Michel Fourniret, Francis Holm et Nordal Lelandais. Cette année, la production les envoie à Julien Josas au carrefour des destins pour réaliser leurs rêves. Bref, le lancement de cette enquête, c'est l'occasion de lire des messages assez insolites comme « On a officiellement une chippie à Interpol, c'est quoi la prochaine étape ? Une chippie à la tête de l'État ?» N'empêche, si cette enquête collaborative, elle fonctionne, déjà je serais morte de rire. Et ensuite, peut-être que ça remettra en cause l'existence des services de renseignement et d'Interpol. Peut-être qu'à la place des flics racistes et homophobes, les enquêtes seront directement diligentées par des stars du web. J'ai trop la vision, moi, à la place des rapports confidentiels que bah, nous, on voit jamais, bah, peut-être que ce sera directement posté sur YouTube. Genre, joueur du grenier, le petit Grégory sur PS2, on a retrouvé le tueur du Zodiac sur un bateau Zodiac, ou encore, il a tué des mineurs. Let's play Bus Simulator avec Oli. Après, franchement, ça coûte rien d'essayer, ça se trouve, ça va lui mettre un coup de stress et il va faire des erreurs. Il y a un monde où, à la place d'une descente de police, il tombe nez à nez avec des chippies en plein live Insta prêtes à l'arrêter. Genre, coucou les filles. Alors, un commentaire de Xav Dudu de Ligogo qui nous dit « Retirez vos chaussures à l'entrée, je viens de passer la spi » et « Merde, je me suis trompé de compte, haha ». Dans tous les cas, pour le divertissement, que ça réussisse ou pas, c'est exceptionnel. Vous vous souvenez sans doute de ce 11 octobre 2019 où le Parisien titrait « Arrêté, le fugitif le plus recherché de France a été retrouvé » et où en fait c'était Guy Joao. Les mecs, c'est censé être des flics expérimentés, pointus, avec un arsenal de renseignements hors normes, du genre à te retrouver deux aiguilles dans, je sais pas, deux bottes de foin, j'imagine. J'ai pas lu le livre et j'ai pas vu le film. Et ils arrêtent un show avec pas la même tête, pas le même âge. Littéralement, le seul point commun, c'est qu'il avait des lunettes et que c'était un mec. On sait pas, peut-être que c'est une base cohérente, hein, qui va nous permettre de trouver que l'assassin, c'était Cyclope des X-Men ou Harry Potter depuis le début. En tout cas, depuis cette petite confusion, Guy Joao est mort et le Xav reste introuvable. Affaire à suivre, donc, pour les petites chippies.
Merci Delila, et oui, on se rappelle de ce jour béni sur Twitter juste après la mort d'Elisabeth II et de Jean-Marie Le Pen. C'est déjà la fin de cette matinale, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette émission, Céline, Éléonore, Héloïse, Fabien, Delila et Gabriel à la réalisation. Merci à nos invités Dorothée Schmid et Pablo. Merci Alice qui coordonne avec moi cette matinale. Restez sur Radio Campus Paris puisque juste après vous aurez droit à un best-of du monde zygomatique. D'ailleurs, il y aura peut-être ma voix et celle de Delila, mais ça, vous n'avez qu'à écouter pour en savoir plus. Et surtout, retrouvez-nous demain à 19h pour une nouvelle matinale. On parlera de l'installation des médecins dans les déserts médicaux et du Campus Film Festival. Un beau programme. Alors, retrouvez-nous demain et bonne soirée sur Radio Campus Paris.